Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Mesdames et messieurs les députés.
Imperturbable, malgré les invectives et le chahut dans l'hémicycle. Michel Barnier a listé hier ses priorités lors de son discours de politique générale. 1h30 pour convaincre, une assemblée plus que jamais fracturée.
Prenons soin ensemble de la France et des Français. Ils nous demandent de dépasser nos divisions. De dépasser nos querelles.
Pour donner une chance à son gouvernement et gagner le soutien des trois blocs qui composent l'Assemblée, Michel Barnier leur a tour à tour donné des gages, du sur-mesure pour chaque couleur politique.
La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé dans une exigence de justice fiscale. Et nous voulons aussi mieux contrôler nos frontières. Nous n'accepterons aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans, sur l'IVG, sur le mariage pour tous.
Cette stratégie sera-t-elle payante? Le RN semble réceptif, les macronistes attendent de voir, tandis que le nouveau Front populaire pilonne l'exercice d'équilibriste de Michel Barnier.
On a un Premier ministre, un homme sincère, j'imagine, mais qui est traversé par toutes les contradictions d'une majorité d'ailleurs extrêmement réduite, et on a bien vu qu'il ne pouvait pas aller très loin dans les annonces tant il était contraint.
Sans détour, la gauche, par la voix de la France insoumise, appelle à voter la censure contre le gouvernement Barnier.
Vous n'avez plus aucune légitimité politique alors que vous rampez devant l'extrême droite. Il ne vous reste qu'à partir.
Alors le Premier ministre parviendra-t-il, sur le fil, à trouver une majorité parlementaire? Va-t-il obtenir un sursis ou sera-t-il censuré?
Alors, ce qu'en pensent nos invités. Benjamin Morel, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à Paris 2. Votre ouvrage, votre dernier essai, Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours, est paru aux éditions Passé Composé. C'est bien cela.
C'est ça.
Et selon vous, ce gouvernement Barnier ne tient que par la grâce de son principal opposant, à savoir le RN. C'est une situation exceptionnelle, en l'occurrence. Ce soutien sans participation du RN tiendra jusqu'au jour où Marine Le Pen n'y aura plus intérêt. À côté de vous, Jérôme Jaffray, directeur du CECOP, on dit CECOP, hein, c'est ça, hein, si on veut,
oui.
Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Jérôme Jaffray, selon vous, Michel Barnier est plus habile que l'on ne le pense. Il a joué le rôle de censeur de la classe politique, l'homme raisonnable au milieu de gens devenus déraisonnables. Et vous ajoutez qu'il tente de mettre l'opinion publique de son côté, non sans habileté. Et Aurore Malval, bonsoir madame, rédactrice en chef du site internet de l'hebdomadaire Marianne. Selon vous, sur l'immigration, Michel Barnier affiche une forme de fermeté, mais reste quand même en deçà des exigences du RN ou même des exigences de Bruno Retailleau. Ces promesses comme menacer les pays tiers pour faciliter les expulsions, vous dites qu'on en a déjà entendu 100 fois du même tonneau. Et on démarre avec la déclaration,
oui,
du jour.
Prononcée hier donc dans son discours de politique générale par Michel Barnier, elle concerne la fiscalité. Le partage de l'effort, a déclaré le Premier ministre, nous conduira à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, sans autre précision à ce stade sur les modalités de cette contribution et ce qu'elle vise exactement. Au total, l'augmentation de la fiscalité devrait atteindre 20 milliards en 2025. Jérôme Jaffray, quelle rupture tout de même. C'est un gage donné pour vous aux plus modérés de la gauche qui pourraient l'aider dans sa tâche malgré leur opposition du moment?
Je ne crois pas. Ah. Je ne crois pas que ça changera un iota l'attitude des députés de gauche à l'égard du gouvernement Barnier. Ils considéreront que tout cela, c'est peu de choses. Qu'il fallait rétablir l'impôt sur la fortune, qu'on n'en a pas parlé du tout, que la taxation des dividendes est à un niveau trop bas et qu'on n'a pas parlé du tout de le relever. En revanche, la rupture, là vous avez raison Benjamin Sportouche, la rupture, elle existe, elle est avec le macronisme. Le macronisme avait fixé le fait de, un, la baisse des impôts est pour le coup intangible, comme aime à dire Bruno Retailleau sur un autre sujet. Il ne faut pas y toucher. Et quand on commence à y toucher, on détricote tout le travail du président de la République. Eh bien, Michel Barnier, dans sa déclaration de politique générale, a donc détricoté le travail du macronisme.
Oui. Bah, Aurore Malval, on risque donc peut-être de s'aliéner les macronistes en voulant faire un pas, même s'il ne plaira pas à la gauche, mais de tenter de le faire, même si le président de la République a validé cet après-midi l'augmentation des impôts sur les entreprises.
Alors, on avait vu, justement, on a beaucoup entendu depuis la nomination de Michel Barnier, l'aile gauche, en tout cas, appeler comme ça, de la Macronie s'exprimer. Le week-end dernier, c'était l'aile droite qui avait dit justement, avec Gérald Darmanin, Aurore Berger et d'autres, qui avait dit surtout pas de hausse d'impôts, qui avait même parlé de remettre l'assurance chômage. On a compris dans le discours d'ailleurs de Michel Barnier que cette réforme semblait abandonnée. Donc effectivement, il y a une partie de la Macronie, du camp présidentiel, qui peut être un petit peu bousculée. Enfin bon, tout de même, 20 milliards sur justement l'impôt, mais quand même 40 sur la baisse des dépenses, qui reste quand même le premier pilier de la réduction justement du déficit. Donc c'est une pincée de justice fiscale, c'est une façon pour Michel Barnier de dire, écoutez, voilà, c'est son, ce qu'on appelle le gaullisme social, hein, voilà, un peu la tarte à la crème, donc ça, je dirais que ça coûte pas cher, entre guillemets, en tout cas par rapport à l'austérité, quand même, à la politique austéritaire qui s'annonce.
Benjamin Morel, il y avait le en même temps d'Emmanuel Macron, maintenant il y a l'entre-deux, quelque part, de Michel Barnier, c'est ça ?
Oui, il y a l'entre-deux, et cet entre-deux, je dirais qu'il s'entend, étant donné que Michel Barnier, s'il veut tenir, doit donner des gains symboliques à la fois au Rassemblement national, au Modem, aux macronistes, etc., tout en, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, tout en s'appuyant sur l'opinion. Parce que cette affaire d'impôt sur les riches ou sur les sociétés qui gagnent le plus, c'est une très très bonne façon de dire, en fait, je ne suis pas le père de l'austérité. Je ne suis pas celui qui apparaît comme étant le premier ministre antisocial. La preuve en est. Par contre, ensuite, on va faire des économies. Ces économies pourront affecter potentiellement les plus vulnérables, mais on ne pourra pas me faire ce procès. Et ça, évidemment, pour des macronistes qui peuvent en effet ne pas vouloir entendre qu'on remette en cause le bilan d'Emmanuel Macron, c'est compliqué à contrer d'un point de vue médiatique. Qui plus est, ils sont pris dans une situation très complexe, tout bêtement, parce que si vous êtes un député macroniste, vous avez été élu comment ? Vous avez été élu grâce au report des voix de la gauche sur vous contre le Rassemblement national. Votre
vous
gouvernement,
parlez des dernières législatives.
Exactement. Votre gouvernement tient grâce au Rassemblement national. Inutile de vous dire qu'en cas de dissolution, ça va être compliqué pour ces députés. Et donc, ils peuvent évidemment crier et se tordre en deux en disant « c'est pas bien », etc. Leur situation stratégique ne leur permet de toute façon pas de négocier en situation de force avec Michel Barnier.
Jérôme Jaffré.
D'un mot, simplement, par rapport à ce que vient de dire Benjamin Morel, la notion de macroniste à l'Assemblée nationale, elle a un peu disparu. Elle n'existe plus vraiment, c'est un point absolument majeur. Et ce n'est pas un hasard si c'est à Gabriel Attal que Michel Barnier a réservé son propos le plus aimable, puisqu'il lui a dit qu'il accueillait avec beaucoup d'intérêt ses propositions d'économie visant à résorber le déficit qu'il lui avait laissé. Alors il a dit qu'il avait trouvé en arrivant. Enfin, en gros, c'est votre déficit et c'est à moi de régler le problème. Donc, Michel Barnier a dit ça donc à Gabriel Attal, qui est le chef du principal groupe qui, théoriquement, soutient le gouvernement, ce qui pose le problème de la cohérence de cet ensemble politique, qui me paraît extrêmement faible. Il n'y a pas que le Rassemblement national qui menace, en vérité. S'il n'y a pas une cohérence suffisante au sein du bloc qui théoriquement doit soutenir le gouvernement, c'est un signe de fragilité supplémentaire.
Juste une question peut-être à propos des lois sociétales, entre guillemets. Est-ce que le fait de dire « je n'y toucherai pas », PMA, mariage pour tous, IVG, ce n'est pas une manière de donner des gages aux macronistes ? Alors, de s'assurer en tout cas que là, ça ne bougera pas ?
Tout à fait. Alors je me demande quel était l'intérêt de mettre l'IVG dans la Constitution, si ce n'était pas précisément pour qu'on n'y touche pas. Oui. Je vois quand même dans cette démarche des macronistes, encore une fois appelés, qui se nomme de gauche, un affichage sociétal. On sait que c'est un petit peu la gauche justement sociétale qui s'affirme par ses marqueurs, ses avancées, ce progressisme. C'est aussi celle finalement qui s'était fait entendre avec beaucoup plus de force lors de la loi immigration que par exemple pour la réforme des retraites. Encore une fois, c'est quelque chose, on fait des totems de ces choses, alors que je ne pense pas honnêtement que tous ces hommes et femmes politiques aient pu douter que le gouvernement Barnier remette en cause les avancées de ce point de vue-là.
Alors, on va évoquer l'immigration. Michel Barnier, avec vous, Anna, entend en faire un des 5 piliers de sa politique.
Oui, l'immigration, nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire. C'est ce qu'a dit hier Michel Barnier lors du discours de politique générale. Et il a ensuite esquissé plusieurs mesures strictes pour lutter contre l'immigration. D'abord, celle de prolonger exceptionnellement la rétention des étrangers en situation irrégulière pour mieux exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. La durée maximale de rétention pourrait être portée à 120 jours au lieu des 90 actuels. On peut y voir une réponse directe au meurtre de Philippine il y a 10 jours par un suspect marocain sous le coup d'une OQTF. Il avait été libéré de manière anticipée alors même que les autorités françaises étaient dans l'attente de son laissez-passer consulaire. Autre mesure, il menace de restreindre l'octroi de visas si des pays tiers comme le Maroc, par exemple, ne délivrent pas les laissez-passer en temps et en heure. Et puis enfin, il laisse ouverte la possibilité de renégocier les accords bilatéraux avec certains pays, comme l'Algérie, accords qui ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui, a-t-il déclaré. Et à la fin de son discours, eh bien Marine Le Pen a pris la parole et exigé que soit remis à l'agenda dès 2025 une nouvelle loi immigration restrictive avec à minima les dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel fin janvier. Benjamin Morel, il a donné suffisamment de gages, selon vous, à la droite et à l'extrême droite hier, Michel Barnier ?
On est dans le théâtre. Les mesures que vous avez présentées, on sait qu'elles ne servent pas à grand-chose, fondamentalement. Les délais pour les OQTF, il n'y a pas assez de place dans les centres, donc ça ne sert pas à grand-chose. On pourrait éventuellement renégocier l'accord avec l'Algérie, autant vous dire que ça n'arrivera pas.
Compliqué.
Marine Le Pen a intérêt, pour l'instant, à ce que ce gouvernement tienne. Mais ça, c'est difficile à dire à son électorat. Donc il faut lui donner des raisons. Il faut lui donner des gages, qu'elle n'y croit pas, n'a aucune importance, pour lui permettre de justifier le fait qu'elle ne vote pas à la censure.
Pourquoi a-t-elle intérêt à ce que ce gouvernement...
Elle a intérêt parce qu'elle dit à l'électorat de gauche aujourd'hui, regardez, regardez, vous avez fait Front Républicain la dernière fois, les centristes s'appuient sur nous. Elle dit à l'électorat du centre, regardez, regardez, s'il y a un budget, s'il y a Michel Barnier, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous, stratégie de la cravate.
Donc c'est le RN aujourd'hui.
Exactement,
qui dicte la politique
exactement.
Migratoire.
Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le RN, paradoxalement, est le principal adversaire aujourd'hui de ce camp central, et en même temps, son essentiel soutien parce qu'il y a intérêt. Mais il faut lui donner du grain à moudre. Il faut que, du point de vue de son électorat, le RN puisse justifier de cette position. Et que fait Marine Le Pen hier? Elle se contente de rien et elle renvoie à 2025 le fait de peut-être éventuellement peut-être voter une motion de censure. Elle sait très bien qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle qui permettrait demain de voter une loi sur l'immigration qui débloquerait la situation de la précédente loi immigration. Elle le sait parfaitement, mais néanmoins, ça permet de reporter le délai.
Bah alors justement, on va l'écouter, Marine Le Pen, elle est sur une ligne de crête, ne pas censurer. Mais une mise sous pression tout de même du gouvernement.
Si je prends l'engagement aujourd'hui de ne jamais, à un seul instant, céder aux médiocres sirènes de la comédie des menaces de censure, c'est parce que c'est à vous et à vous seul qu'il appartient de faire de cette période un temps de construction et de service. Cet esprit d'ouverture ne doit pas s'interpréter comme un blanc-seing. Notre esprit républicain comme de la faiblesse, de l'irrésolution et encore moins une forme d'allégeance.
Jérôme Jaffray, alors pas de blanc-seing, mais tout de même, il trouve là une majorité parlementaire, le
alors,
Premier ministre?
Non, même pas. Mais j'aurais presque tendance à dire que le RN s'affiche comme l'un des meilleurs soutiens de Michel Barnier, sans aller jusqu'à voter ses textes et en excluant également de voter le budget. Le budget ne pourra passer avec un 49-3. Et à ce moment-là, le Rassemblement national... probablement, c'est une hypothèse, dira qu'il ne vote pas la censure, car l'argument de Marine Le Pen, il est triple dans cette affaire. Premièrement, ne pas paraître être l'allié du nouveau Front populaire. Marine Le Pen ne sera élue présidente de la République en 2027 que si elle attire des voix de droite au second tour de scrutin et si elle casse la droite. Donc ce n'est pas en allant vers le nouveau Front populaire qu'elle va réussir. Deuxième élément, il y a son procès qui la tient pendant 2 mois. Ça n'est quand même pas idéal en même temps
soit
que
les assistants parlementaires à Bruxelles.
Voilà, 2 mois exactement. Et troisième et dernier élément, son argument, c'est de dire qu'il faut éviter le chaos. Et ça, c'est un argument très fort pour les électeurs. Parce que les électeurs, le fait qu'il n'y ait pas eu de gouvernement pendant 2 mois, que les problèmes dans l'agriculture, sur la Nouvelle-Calédonie, dans l'outre-mer, sur le budget, sur la dette, etc., ne soient jamais traités et jamais réglés, c'est un facteur d'inquiétude. Et elle attendra donc aussi l'impopularité qui finira sans doute par gagner Michel Barnier.
Oui.
Et le jour où Michel Barnier tombera dans l'impopularité, et probablement ça nous renvoie effectivement vers 2025. Donc demander que la loi immigration soit dans l'agenda de 2025, c'est dire aussi, si vous nous annoncez ça, nous irons ensemble jusqu'en 2025.
À vous entendre, Aurore Malval, on a l'impression qu'il joue plutôt l'opinion que la majorité parlementaire, le Premier ministre. Pour l'instant, il les prend à témoin. Est-ce que ce n'est pas un risque d'enjamber quand même le Parlement.
Exactement, et c'est très intéressant parce que tout le monde joue un peu cette partition de ce qu'on pourrait presque appeler une démocratie de l'opinion majoritaire. C'est-à-dire que comme le gouvernement ne tire pas une légitimité des urnes ni de la composition de l'Assemblée qui est ce que l'on sait totalement morcelé, on va, je pense, se diriger vers quelque chose où à coup de sondage, à coup de basculement de l'opinion, on va dire, les Français pensent ça, donc on va légiférer dans ce sens. On l'a toujours vu, c'est là la mort de Philippine et le débat qui suit n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, il y avait quand même cette tendance ces dernières années, à chaque fait divers, d'avoir des débats qui reviennent et cette espèce d'inflation législative pour répondre à un fait divers. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Bruno Retailleau, lorsqu'il a annoncé justement des positions beaucoup plus fermes, beaucoup plus proches de celles de Marine Le Pen que les mesures un peu vagues qu'a annoncé Michel Barnier hier. Eh bien, Bruno Retailleau, il s'appuie là-dessus. Il se dit, voilà, moi, je n'ai pas de légitimité des urnes, mais je vais l'avoir de l'opinion majoritaire de qui est derrière moi. Et effectivement, on risque d'avoir cette concurrence entre le fait parlementaire et le sondage d'opinion.
Vous êtes d'accord avec ça, madame? Il joue l'opinion?
Il joue l'opinion et il permet également aux groupes politiques qui le soutiennent de tenir leur opinion. C'est-à-dire que quand vous dites, ça a été évoqué tout à l'heure, attention, je ne remettrai pas en cause la loi Veil. Évidemment, enfin, je veux dire, personne ne l'a imaginé.
L'IVG, la loi Veil sur l'IVG de 74.
Mais ça permet à Gabriel Attal, ça permet aux macronistes, même si je suis d'accord, aux attalistes aujourd'hui plutôt, de dire, regardez, on a obtenu quelque chose. Regardez. À la fois, on est en divergence vis-à-vis de Bruno Retailleau et nous ne sommes pas dans cette affaire minorisée. De l'autre côté, le RN peut dire, regardez, en fait, on a quand même obtenu des choses concernant la politique d'immigration.
Nous pesons.
Exactement. Le problème de Michel Barnier n'est pas aujourd'hui de conquérir le cœur de Gabriel Attal ou de Marine Le Pen. Ces groupes politiques ont intérêt aujourd'hui à le soutenir. C'est-à-dire qu'ils cherchent des raisons de ne pas le censurer au regard de leur électorat. Que fit Michel Barnier? Eh bien, il leur donne des choses dont ils pourront satisfaire et leurs députés, avec des groupes qui parfois sont très déstructurés, je pense notamment à Renaissance ou au Modem, et de l'autre côté, de donner des raisons à leurs électeurs de ne pas trop leur en vouloir le soutenir.
Jérôme Jaffré, il est rusé, notre nouveau Premier ministre, il est habile.
Écoutez,
il fut bon hier.
Il l'est davantage qu'on ne pouvait le croire, et probablement qu'en l'écoutant, beaucoup avaient le sentiment. Parce que c'est quand même une leçon à l'ensemble de la classe politique. Au fond, Michel Barnier, il ressurgit 20 ans après, si je puis dire, dans tous les sens du terme, 20 ans après avoir quitté la scène politique française.
Parler comme Alexandre Dumas, là.
D'Europe.
Il avait quand même tenté d'être candidat à la présidentielle.
Oui, ça n'avait pas laissé un souvenir extraordinaire, il faut bien dire. Et là, au fond, il mène la charge. C'est au fond, comment avez-vous pu laisser les finances du pays dériver à ce point? C'est son thème. Et il le dit de plus en plus nettement. C'est donc une charge terrible contre le macronisme. Comment avez-vous pu laisser dégrader à ce point la bonne gouvernance dans le pays et la relation entre les gouvernants et les Français? C'est également ce qu'il dit dans tout son discours d'hier.
En réhabilitant les corps intermédiaires, au passage.
Et aux parlementaires qui sont là, comment avez-vous pu dégrader à ce point les mœurs politiques dans notre pays et la construction du travail parlementaire tel qu'il doit avoir lieu? Donc, c'est en ce sens que je dis qu'il s'est posé en censeur hier de l'ensemble de la classe politique, et je vous rejoins dans votre propos. Oui, mais le RN, d'abord, il a quand même sur l'immigration, excusez-moi, pris beaucoup de distance avec Bruno Retailleau et beaucoup de distance avec le Rassemblement national. Pas un mot sur une loi immigration. Pas un mot sur l'aide médicale d'État qu'il faudrait supprimer. Pas un mot sur le rétablissement du délit de présence illégale sur le territoire.
Pas un mot pour l'instant, Jérôme Jaffré.
Oui, mais tout ça, il ne l'a pas mis en avant. C'est une prise de distance assez considérable.
Alors, on va regarder une archive. Personne n'était né, c'était en 62. Une archive autour de cette hantise de la censure. Parce qu'en fait, pendant la Ve République, un seul gouvernement a été censuré, c'était celui de Georges Pompidou, qui s'exprime à ce propos de manière amère et très mélancolique. Regardez.
Le 5 octobre 1962, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai senti physiquement que le mauvais génie d'autrefois était de nouveau présent dans l'hémicycle. J'ai vu la grande majorité de l'Assemblée nationale, depuis les communistes inclus, jusqu'aux sympathisants de l'OAS également inclus. Je les ai vus animés moins par le désir d'exercer un droit de contrôle légitime de la politique du gouvernement, que par la passion de renverser tout ce qui s'oppose au règne exclusif des partis.
Benjamin Morel, alors il s'en est bien sorti hier, le Premier ministre, selon ce que vous dites là, mais en même temps, il pourrait avoir le même sort que Georges Pompidou.
C'est pas tout à fait impossible. Et vous savez, la motion de censure qui est votée contre Georges Pompidou, elle ouvre une époque. Parce qu'à partir de ce moment-là, que fait De Gaulle, ben, il refuse la démission dans un premier temps de Georges Pompidou et il dissout. Et après cette dissolution, on a des majorités absolues pléthoriques. C'est l'entrée dans la Ve République présidentialiste. Si demain on a une motion de censure, eh ben, ça veut dire que la période présidentialiste de la Ve République, non pas elle a vécu, mais peut-être a-t-elle en effet vécu. Et donc, de ces deux motions de censure, l'une existante, l'autre potentielle, ben, on borde peut-être une période politique.
Mais vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez, venir vite ou pas ?
Pas forcément, pas parce forcément. Que pour les raisons qu'on a données, personne n'y a intérêt.
Et vous, Romain ?
Et vous, Romain ? Je ne pense pas non plus, parce que finalement, Michel Barnier est un Premier ministre en sursis dès le premier jour de son exercice. Cette motion de censure plane sur lui comme elle n'a jamais plané sur aucun gouvernement. Donc, et je pense que ça peut, cet État,
paradoxalement favoriser.
S'étirer, parce qu'effectivement, on l'a dit, personne n'y a intérêt. On l'a vu d'ailleurs comment les deux camps se sont un peu ménagés entre le RN, justement, et Michel Barnier à l'Assemblée. Donc moi, je pense que ce modus operandi peut durer et peut-être encore beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit.
Toutes ces fragilités font une force, Jérôme Jaffré. Ça paraît quand même paradoxal. Hein.
C'est tout le talent des politiques, essayer de transformer effectivement leur faiblesse en durée. Maintenant, il est clair que tôt ou tard, la censure sera votée.
Vous voyez quand, vous ?
Alors,
non, je sais que vous avez
une boule de cristal. Ça, vous exagérez. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais à un moment donné, d'abord, avant que le président de la République ne retrouve son droit de dissolution.
Car c'est dans un an.
Oui,
c'est
pas à partir de
un an après la dissolution
juillet 2025. Le faire avant, parce que, du coup, vous aggravez la crise du macronisme et vous démontrez la faiblesse du président dans le système. Deuxièmement, vous votez la censure pour montrer votre puissance politique. Ça devient un sabre de bois. Si à chaque débat, Mme Le Pen monte à la tribune pour dire « Nous ne sommes d'accord sur rien avec ce que vous faites, mais comme nous ne voulons pas ajouter au chaos, nous ne vous renversons pas. » Elle peut le faire une fois, deux fois, trois fois. La dixième fois, on dirait « Écoutez, arrêtez. Oui, » un jour, elle le fera certainement.
Oui, Benjamin Morel.
La promesse sur la proportionnelle.
Oui. Ça, il peut la laisser planer aussi pour gagner le RN. À un moment donné, le RN va demander des comptes sur la proportionnelle.
Oui, et le modem. C'est-à-dire que la proportionnelle, aujourd'hui, beaucoup de gens sont d'accord, à gauche comme à droite. Le problème, c'est que la proportionnelle, ça n'existe pas en tant que telle. Il y a des proportionnelles. Il y a 1000 modalités de proportionnelle. La proportionnelle que propose le RN n'est pas tout à fait la proportionnelle du modem, qui n'est pas non plus la proportionnelle qui est proposée par la gauche. Et donc, il va falloir se mettre d'accord sur quelle modalité de proportionnelle.
Impossible.
Et ça risque en effet d'être très compliqué.
Oui, mais au détriment de qui ? Parce qu'à force de faire le grand écart, on va se faire une élongation, hein, quand même, Romain Leval, pour le Premier ministre.
Une ambiguïté qui a ses dépens. Ouais. Je crois que c'est la formule qui est devenue un poncif de la politique. Mais effectivement, on a l'impression, là, dans ce discours, justement, de politique générale de Michel Barnier, qu'il n'a pas voulu sortir de cette ambiguïté. Combien de temps ça va durer ? Effectivement, c'est toute la question.
Eh bien, écoutez, nous le verrons, nous en reparlerons ici même. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat avec humour, causticité et profondeur. Et vos boules de cristal. Merci infiniment à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.